C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous sommes toujours en compagnie de Mossadegh le Juste qui nous accompagne dans l'escalier de la vérité. Au début de la Grande Guerre, il rentre à Téhéran, occupe des fonctions élevées aux finances. Après quelques péripéties, il devient ministre des Finances. En 1925, Mossadegh est parlementaire lorsque Reza, alors premier ministre, demande à devenir Shah. Mossadegh s'y oppose, ne souhaitant pas le retour de la monarchie, mais Reza parvient à ses fins et Mossadegh abandonne la politique et se retire sur ses domaines d'Ahmadabad où il vivra durant 16 années, refusant toutes les propositions de ministère qui lui sont faites. En 1940, Reza fait arrêter Mossadegh pour ne pas se mettre à dos britannique et soviétique, mais le Shah est néanmoins déposé et son fils le remplace et tire Mossadegh de son exil. L'ex-ministre va alors devenir un leader nationaliste véhément et s'opposer de toutes ses forces à toute ingérence étrangère. Élu député en 1944, il fait ratifier l'interdiction pour les ministres d'accorder des concessions pétrolières sans accord du Parlement, bloquant ainsi les appétits des soviétiques. En 1945, Staline provoque des troubles en Azerbaïdjan et en territoire iranien kurde, et les insurgés sont téléguidés par Moscou. En fait, les Russes veulent un accord pétrolier avec l'Iran et lorsqu'ils l'obtiennent, ils abandonnent les insurgés tout en continuant de fomenter des troubles, mais le Shah reprend la main et mate les rébellions récupérant les territoires du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan. Alors que les Saoudiens avaient obtenu un accord 50-50 avec l'Arabian American Oil Company, le Shah et son gouvernement demandaient à bénéficier du même partage, faute de quoi ils nationaliseraient. Et Mossadegh, lui, considérait que les accords de 1930 étaient illégaux. Il prônait donc la récupération des puits sans indemnité. Le pétrole iranien appartenait aux Iraniens. Les Britanniques tremblaient que cela fasse rapidement contagion. Le 4 février 1949, le Shah est victime d'un attentat. En conséquence, le Parti communiste est interdit. Mossadegh est reçu par le Shah après les élections de 1949 pour protester contre le fait qu'à son avis, elles ne sont pas régulières. Et il fonde avec d'autres le Parti du Front National. Le 4 novembre de la même année, c'est le premier ministre qui est assassiné par un membre des fédaïnes de l'islam. Des membres du Front National sont arrêtés. Mossadegh se réfugie dans son domaine à la campagne. Empêchés d'exercer leur mandat pour cause d'arrestation ou de fuite, les élus du Front National qui avaient emporté 12 sièges en février 1950 purent siéger en avril. Un accord avait été trouvé avec l'Anglo-Persian Oil Company sur la base d'une répartition 50-50, mais le Front National réclamait la nationalisation pure et simple, menaçant de couper le cou du ministre qui voulait ratifier l'accord. Une commission fut créée pour analyser le fameux accord et Mossadegh la présida. Devant le climat très tendu, le Premier ministre démissionne, est remplacé par le général Ramzara, mais ce dernier est lui aussi menacé de mort par Mossadegh. Ramzara analyse la situation et conclut que l'Iran est incapable, vu l'état calamiteux de son industrie, d'exploiter le pétrole seul, encore moins d'en assurer la distribution face aux compagnies occidentales. Mais il fait quand même étudier les conséquences d'une nationalisation. Le 7 mars 1951, alors qu'il se rend aux funérailles d'un ayatollah, Ramzara est assassiné par un autre membre des fédaïnes. Un nouveau premier ministre, Hossein Alla, est nommé et c'est sous son gouvernement que la nationalisation est votée par le Parlement, confirmée par le Sénat et approuvée par le Shah. Le 30 avril 1951, la National Iranian Oil Company est créée, mais les problèmes ne font que commencer. D'abord, l'AIOC refuse la nationalisation et refuse également de payer les employés de la raffinerie. Les Britanniques sont furieux, les Américains compréhensifs, bien qu'estimant qu'un accord 50-50 eût été préférable. Les Russes inquiets de voir les Américains entrer dans le jeu. Les Soviétiques déclenchent des manifestations, Alla démissionne, Mossadegh, le 29 avril 1951, avec l'appui de la population, des religieux et des communistes, devient Premier ministre. L'assassin de Ramzara sera gracié quelque temps après. En 1933, l'AOIC et l'État iranien avaient conclu un accord sur 60 ans. La rétrocession à l'Iran de 20 voire 25% était considérée comme très insuffisante quand les Américains accordaient 50% à l'Irak, au Koweït et à l'Arabie Saoudite. Les Britanniques, curieusement, ne sont plus défavorables à la nationalisation, mais le problème va achopper sur les salaires des employés britanniques et sur le dédommagement de l'accord signé en 1933. Mossadegh est intraitable. Les employés de l'AOIC dépendent désormais de l'Iran et 75% des revenus de la compagnie anglaise perçus avant le 20 mars 1951 revenaient à Téhéran. La Grande-Bretagne va envoyer des troupes à Chypre et un navire au large d'Abadan. Le Shah promet de combattre à la tête de son armée ceux qui tenteraient une action en force. Dans le même temps, les Américains se font entremetteurs, ce qui déplaît fortement aux Soviétiques.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Y'a un Derrick dans mon jardin, y'a un Paplaine chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Tu marches au fioul, à l'ordinaire, au kérosène ou au super, de toute façon c'est toujours du pétrole. C'est la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours du pétrole. Pas de l'or blanc, c'est de l'or noir, mais ça fait des pétrodollars. Y'a pas que des bidons dans le pétrole.
Pareil qu'il y en a qui ont des idées, je voudrais voir leur bagnole rouler. S'ils mettent autre chose dedans que du pétrole.
C'était le désert, rien n'y poussait, c'était en dessous que tout se passait. Le vrai trésor était là, le pétrole. Dire qu'il a changé l'eau en vin pour le vin, y avait du raisin, elle aurait mieux fait de changer l'eau en pétrole. Qu'il soit à voile ou à vapeur, t'auras pas de tigre dans ton moteur si t'as pas de poignant pour le pétrole. Oui, je voudrais bien voir la tête qu'on ferait s'il nous coupait le robinet. On se les gèlerait sans le pétrole.
Un pétrolier s'est échoué, il en sort une drôle de marée. Tu veux pas te baigner dans le pétrole? T'as qu'à demander aux Bretons si c'est bon et si ça sent bon. Un océan parfumé au pétrole.
Oui, notre seul conseil, c'est que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère de pétrole.
Notre seule consolation, c'est que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère que le pétrole. Pour notre père qui est aux cieux, le plat quotidien, gardez-le. Chaque jour, donnez-nous nos.
La Cour internationale de justice de La Haye, saisie par les Britanniques, va recommander la poursuite de l'activité de la compagnie anglaise jusqu'à ce qu'on statue sur le fond. Mais Mossadegh refuse et estime la Cour incompétente pour un litige d'un État avec une compagnie privée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est également saisi, mais il va en définitive ne pas traiter le litige. Tandis que les Britanniques sanctionnent l'Iran en bloquant leurs exportations d'acier et de sucre et en gelant les comptes iraniens dans les banques britanniques à hauteur de 49 millions de livres sterling, Mossadegh voyage aux États-Unis, y est reçu par Truman et remporte un franc succès au point que le Time l'élira homme de l'année. Aucun employé anglais ne souhaitant travailler pour la compagnie iranienne, on les rapatrie en Angleterre. En réponse à Mossadegh qui ferme les consulats britanniques, les Anglais instaurent un blocus qui interdit à Téhéran d'exporter son pétrole et arraisonne même le Rosemary, un pétrolier italien transportant du pétrole iranien, ce qui refroidit sérieusement ceux qui seraient tentés d'agir de même. Mossadegh ne pourra compter sur l'appui d'Attlee, le premier ministre travailliste du 10 Downing Street, car des intérêts supérieurs géostratégiques plus forts que les considérations de classe sont en jeu. Attlee va donner le feu vert pour mener des opérations secrètes, car l'Angleterre, ruinée par la Deuxième Guerre mondiale, a un besoin financier vital des royalties du pétrole iranien. Le 22 mars 1951, le Times publie un article non signé. Dans ce véritable réquisitoire, Mossadegh est présenté comme un incompétent corrompu à la solde des soviétiques. Celle qui a écrit ce brûlot est Anne Lambton, officiellement une universitaire, mais ayant travaillé durant la guerre pour le MI6 en tant que chef de la propagande à Téhéran. Elle est également la nièce de Harold Macmillan, futur premier ministre britannique en 1957. Lors d'une conversation, Anne Lambton fait état d'un projet de renversement de Mossadegh. La cheville ouvrière pour y parvenir sera un de ses collaborateurs locaux, le docteur Robert Zenner, un universitaire d'Oxford, surnommé le docteur Z, très discret et très efficace dans la propagande en Iran durant la guerre. Un homme au physique étrange, avec ses petites lunettes rondes, un gros fumeur d'opium, qui cachait son argent dans ses chaussettes, mais un homme indispensable qui connaissait tout le gratin de Téhéran. La tactique, développée par Anne Lambton et Zenner, consistait à discréditer le premier ministre. Le projet de renverser ce dernier, nom de code Operation Boot, est validé par le MI6. Soudain, le premier ministre Clément Attlee ayant convoqué des élections législatives, les perd face à Winston Churchill, et à ce moment-là, les choses s'accélèrent. Puisqu'il n'y a pas de rival démocratique à Mossadegh, il faut le renverser avant que les communistes prennent le contrôle. Un coup d'État au nom du Shah est préparé qui doit être accompagné de mesures autoritaires drastiques. Le décès de George VI fait accéder Elizabeth au trône. Problème pour Churchill, le président américain Truman ne souhaite pas aider les Britanniques dans l'aventure. Les Américains ont mis la main sur le pétrole saoudien avant les Anglais et ils ont signé un accord à 50-50 avec l'Arabie Saoudite en conseillant aux Britanniques de faire de même avec l'Iran. Mais Londres, trop vorace, a refusé et ce qui est arrivé est mérité. Churchill tente de proposer à Truman de partager le gâteau iranien, mais Washington reste méfiant, estimant que les Britanniques en sont restés aux méthodes coloniales. Toutefois, le Shah n'aime pas les Anglais, et particulièrement Winston Churchill, car c'est sous sa gouvernance qu'en 1941 le Reza Shah fut renversé, et son fils, le monarque actuel, placé à 20 ans sur le trône tel une marionnette, mais une marionnette qui n'a pas oublié. Les Anglais estiment qu'il est peut-être sous l'emprise de Mossadegh et envisagent de s'en débarrasser comme ils le firent avec le père. En juillet 1952, le Parlement confirme Mossadegh dans les fonctions de Premier ministre, mais il n'obtient ni les pleins pouvoirs ni de se faire confier le commandement de l'armée. Le Shah nomme Gavam Premier ministre et ce dernier entame des négociations avec les Britanniques pour faire cesser le blocus. Tous, religieux, peuples, communistes, se liguent contre lui. Une manifestation géante rassemble 100 000 personnes. Gavam envoie l'armée qui tire. On compte 36 morts. Gavam démissionne. Mossadegh est rappelé. Comme les malheurs n'arrivent jamais seuls, la Cour internationale de La Haye déboute Londres. Entre-temps, la production de barils s'est écroulée. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouverons lors de notre prochaine rencontre un Iran en proie aux troubles.
Feeling broken, barely holding on. There's still something so strong somewhere inside me, and I am down, but I'll get up again. Don't count me out just yet. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back, back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around. Haven't seen the last of me. There will be no fade out. haven't seen the last of me. Oh no, you haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me.